France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain, pour nous c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Attention à la marche et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette soirée du mardi 19 octobre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à toutes et à tous.
L'essentiel commence ce soir par un gigantesque plan de formation.
Former près d'un million de personnels de l'éducation nationale aux valeurs de la laïcité afin de pouvoir répondre à certains dérapages dans les écoles, collèges et lycées. C'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement pour les 4 prochaines années. Lancement de cette opération inédite aujourd'hui. On y revient en début de journal. C'est une décision judiciaire rarissime. Le tribunal correctionnel de Paris impose à Nicolas Sarkozy de se présenter comme témoin dans l'affaire des sondages. Il refusait d'y témoigner. Les juges ordonnent de l'amener par la force s'il le faut. À suivre aussi des députés qui interpellent le gouvernement sur les hausses de carburant. Un lanceur d'alerte biélorusse qui demande l'asile en France après avoir dénoncé la torture dans les prisons russes. Les vins de Bordeaux préoccupés par une enquête nationale sur les effets des pesticides sur la santé et une découverte royale dans les greniers de l'église Notre-Dame de Versailles. Révélation en fin de journal.
À 18h15, un jour dans le monde. Aujourd'hui, nous parlons pénurie. Les composants électroniques qui bloquent les chaînes de production automobiles, qui bloquent aussi les fabrications de téléphones portables, les conteneurs bloqués dans les ports, les embouteillages à tous les niveaux. La faute à qui ? La pandémie et la reprise post-pandémie, est-ce la seule explication ? Est-ce que tout cela est durable ? C'est la question, ce sont les questions que l'on posera ce soir en première heure. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Là aussi, on parle au fond pénurie, mais pas du tout pour les mêmes raisons. C'est le miel français qui inquiète, moins de 10 000 tonnes récoltées, moitié moins que l'an dernier et surtout... pire année de mémoire d'apiculteurs, la faute au printemps et à l'été pourri, la faute aussi au réchauffement climatique. Vos appels et témoignages au 01 45 24 7000. La question était donc née quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty.
Les enseignants sont-ils suffisamment formés pour répondre aux atteintes à la laïcité pendant leurs cours ? Clairement non, avait répondu un rapport en juin dernier, un rapport qui proposait donc de lancer un vaste plan de formation sur 4 ans, former pas seulement les profs, mais tous les personnels de l'éducation nationale aux valeurs de la laïcité et de la République. Cette énorme opération a commencé aujourd'hui avec une première étape, la formation des futurs formateurs. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. On a réuni un millier de ces futurs formateurs aujourd'hui au Conservatoire national des arts et métiers à Paris et vous y étiez.
Oui, parmi eux, un tiers d'enseignants, mais aussi des chefs d'établissement, des personnels, des rectorats. Tous suivent des conférences de spécialistes ou d'universitaires sur, par exemple, l'histoire de la laïcité ou son aspect juridique. Au total, 4 jours de formation leur seront dispensés pour les armer de théorie et de pratiques indispensables selon Carole Serin, proviseure adjointe d'un lycée en Guadeloupe, et Vincent Olive, professeur d'histoire en région parisienne.
Les jeunes sont formés sur les réseaux sociaux par des personnes de l'ombre qui portent atteinte à la liberté, aux valeurs de la République et qui ont des arguments. Et c'est vrai que dans notre formation en tant que personnel de l'éducation nationale, nous n'avons pas tout à fait les mêmes armes qu'eux.
Les bonnes connaissances sur les notions de laïcité, connaître notre héritage républicains sont un moyen de se protéger.
Et protéger tous leurs collègues, puisqu'ils vont à leur tour les former pour leur transmettre ce qu'ils ont appris. Une formation entre pairs qui passera sans doute mieux que des directives officielles, comme le dit Laurent Van Elsland, professeur de philosophie dans la Somme.
Ça va être élargi à des publics qui, peut-être spontanément, ne feraient pas le pas de venir en formation sur la laïcité, mais où on va aller vers eux dans les établissements, de manière à avoir d'abord un échange. Parce que ce qui est très important, c'est pas seulement de faire quelque chose de descendant, où on explique aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent penser, surtout pas, mais c'est vraiment d'avoir un échange pour voir sur le terrain, établissement par établissement, ce qu'il est de la situation à ce niveau-là.
Ce plan de formation est prévu jusqu'en 2025.
Sonia Princey, spécialiste éducation à France Inter. Dernier incident en date sur ces questions de laïcité. Un collégien de 11 ans à Valence qui a écopé d'un avertissement pour avoir crié « Allah Akbar » pendant l'hommage à Samuel Paty. C'était vendredi dernier. Hier matin, son père s'est aussi rendu au collège et a prononcé des menaces de mort contre les personnels. L'homme connu des services de police est actuellement en garde à vue. Une centaine d'incidents lors de l'hommage à Samuel Paty ont été recensés à ce jour par le ministère de l'Éducation nationale.
Un ancien président forcé de venir témoigner devant le tribunal.
Ainsi en ont décidé les magistrats qui examinent depuis hier l'affaire des sondages, ces enquêtes et conseils commandés par l'Élysée sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Une affaire dans laquelle l'ancien chef de l'État a toujours refusé de collaborer avec la justice au nom de son immunité présidentielle. Hier, pour le premier jour d'audience, Nicolas Sarkozy avait fait savoir par lettre qu'il ne viendrait pas pour son audition prévue le mois prochain, en novembre. Sauf que le tribunal a fait preuve d'une rare fermeté. Il exige qu'il comparaisse comme témoin. Bonsoir, Laurélie Carrive.
Bonsoir.
C'est un coup de théâtre, hein, Laurélie, un coup de théâtre judiciaire auquel personne ne s'attendait.
Oui, un murmure incrédule a parcouru la salle tout à l'heure quand le président du tribunal, Benjamin Blanchet, a annoncé sa décision d'une voix monocorde. Il est ordonné que ce témoin soit amené par la force publique pour être entendu. Le symbole est fort. Depuis le début de cette affaire des sondages de l'Élysée, l'association Anticorps bataille pour que Nicolas Sarkozy réponde aux questions de la justice. Peine perdue jusqu'ici, l'ancien chef de l'État n'est pas venu au rendez-vous fixé par le juge d'instruction en 2016. Cité comme témoin par la partie civile au procès qui vient de démarrer, il s'est fendu d'une lettre adressée au tribunal en expliquant qu'il n'avait nullement l'intention, je cite, de déférer à cette convocation. Une posture qui n'a pas plu au juge, visiblement. Pour les magistrats, son immunité présidentielle n'empêche en rien de l'entendre comme témoin. C'est d'autant plus important que pour sa défense, Claude Guéant assure qu'il n'a fait qu'exécuter les ordres de Nicolas Sarkozy. Le témoignage de l'ancien locataire de l'Élysée est donc susceptible d'avoir une influence sur les faits reprochés aux prévenus et est à ce titre nécessaire à la manifestation de la vérité, justifie le tribunal. Nicolas Sarkozy sera donc entendu ici même le 2 novembre prochain.
Laurélie Carrive en direct avec les moyens techniques d'Yves Lehors. Au chapitre judiciaire encore et dans une affaire qui concerne aussi Nicolas Sarkozy, l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2017. Le principal accusateur Ziad Takieddine s'était curieusement rétracté pendant quelque temps dans une interview à Paris Match l'an dernier. La justice s'interroge sur une possible subornation de témoins. Eh bien, plusieurs personnes ont été mises en garde à vue dans cette enquête sans que l'on connaisse le nombre et l'identité des suspects. C'est dans ce contexte que l'on a appris aujourd'hui l'éviction inattendue d'Hervé Gattegnaud de la direction de Paris Match et du JDD. Le journaliste quittera ses fonctions en quelques jours selon le groupe Lagardère. Officiellement, rien à filtrer sur les causes de son départ. On y revient en détail dans le journal de 19h d'Hélène Philly. La pression monte autour du chèque carburant. L'exécutif doit trancher cette semaine pour son dispositif anti-hausse des prix, chèque ou baisse des taxes. Le dispositif n'est pas tranché et en attendant, le gouvernement était soumis cet après-midi aux questions des députés au Palais Bourbon, morceau choisi avec Antoine Gignoux.
C'est un courrier envoyé par une auxiliaire de vie que Claude Deganet reprend dans sa voix.
Quand je vois la facture de mon plein hebdomadaire, quasiment 60 euros, je suis démoralisé.
Et le député Les Républicains interpelle le gouvernement.
Mais dans quel monde vivez-vous? En tout cas, pas dans celui de la France qui travaille, dont les trois quarts utilisent leur voiture pour aller travailler et dont le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer au risque de les retrouver sur les ronds-points.
En face, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, le confirme. Il y aura rapidement des aides, mais elle ne donne pas de détails.
D'ici la fin de la semaine, tous nos concitoyens qui ont besoin d'avoir une réponse auront leur réponse sur comment nous allons les aider. Et l'État sera à leur côté.
Toutes les pistes sont à l'étude, précisent les élus de la majorité. Ce ne sera pas forcément un chèque carburant trop compliqué à mettre en place, explique Olivier Becht, député du Haut-Rhin.
Il faut savoir qui c'est qui a une voiture, il faut savoir si on utilise la voiture pour aller travailler ou pas. Donc ça risque d'être une usine à gaz. Moi, je suis favorable à ce qu'on appelle une taxe flottante. Je pense que lorsque les prix montent, la taxe doit baisser. Là, on protège tout le monde, y compris les classes moyennes qui sont celles qui utilisent le plus les carburants.
Deux réactions. Hors des murs de l'Assemblée, Marine Le Pen demande une baisse de la TVA et Jean-Luc Mélenchon propose de bloquer les prix.
Antoine Gignoux à l'Assemblée nationale. À l'étranger, les autorités russes commencent enfin à réagir face à l'envolée des cas de Covid. Pour la première fois depuis cet été, la ville de Moscou annonce des restrictions, vaccination obligatoire de 80% des employés d'ici le 1er janvier, confinement de tous les plus de 60 ans non vaccinés pendant 4 mois à partir de la semaine prochaine et puis télétravail obligatoire pour au moins 30% du personnel des entreprises. Lui est à l'origine d'une fuite sans précédent autour du système carcéral russe. russe, justement. Il s'appelle Sergueï Salevev, de nationalité biélorusse. Au début du mois, il rendait public des images insoutenables de prisonniers russes subissant viols et tortures en cellule. Depuis, plusieurs responsables ont été limogés. Et depuis, il a quitté la Russie pour venir se réfugier en France, où il a décidé de demander l'asile. Valentin Huinato l'a rencontré cet après-midi.
Dans le hall de son hôtel, Sergueï Savilyev est soulagé par son arrivée en France. Il apprend même déjà la langue.
Merci, bonjour, vive la France.
Condamné pour un trafic de drogue qu'il conteste en 2013, il est détenu dans une prison-hôpital jusqu'à février 2021 à Saratov, à l'ouest de la Russie.
Les tortures, ce n'était pas tous les jours, mais quand le Kremlin passait un coup de fil, on savait ce qui allait se passer. 3-4 agents en blouse se faisaient passer pour des médecins, ils prétextaient un examen médical, fermaient les portes avant de torturer la victime du jour.
Engagé comme secrétaire, il s'occupe notamment de la maintenance informatique de l'établissement. Pendant plus de 5 ans, il collecte les vidéosurveillance. On y voit des prisonniers attachés, humiliés et violés, ici par des gardiens avec ce qui ressemble à une perche. La gorge nouée, Sergueï Savilyev raconte les cauchemars qui ne le quittent plus depuis cette époque. Son avocate, Maître Rimaillot, traduit.
Malgré le traitement et les prises de médicaments, rien ne pouvait effacer ce qu'il avait vu. Il a lui-même subi des mauvais traitements dans les prisons et c'est d'ailleurs ça qui l'a motivé à dénoncer ses pratiques. Et j'espère qu'il pourra se reconstruire paisiblement, mais le chemin est encore long.
Prochaine étape pour lui, déposer une demande d'asile sous 8 jours.
Valentin Huinato. En Inde, des pluies diluviennes ravagent le nord du pays près de la chaîne himalayenne. Glissement de terrain, inondation, un déluge qui a déjà fait 41 morts. Selon le dernier bilan, des dizaines de personnes restent portées disparues et de nouvelles précipitations sont attendues dans les 2 jours.
C'est une étude qui n'a pas encore commencé mais qui inquiète déjà la filière viticole.
Santé publique France et l'agence de sécurité sanitaire ont annoncé le lancement d'une enquête inédite Pestirive qui vise à connaître l'impact des pesticides sur la santé des riverains d'exploitation viticole, une première en France. 3350 participants volontaires et tirés au sort seront méticuleusement suivis jusqu'en août prochain afin de mesurer la présence de pesticides dans leur organisme. Sauf que cette démarche a ému les vins de Bordeaux qui sont allés jusqu'à envoyer une lettre à la préfecture de Gironde. Écoutez Jean-François Gallo, il est président du Conseil des vins de Saint-Émilion.
Quand on dit la vérité sur les choses, il n'y a pas de crainte à avoir. La seule chose que je puisse regretter, ça peut être rectifié, c'est que je voudrais que cette enquête soit faite également dans des lieux qui ne sont pas du tout viticoles, pourquoi pas en ville. Par exemple, on peut trouver des polluants dans les cheveux en ville et qui vont être les mêmes que ceux qui vont être en proximité des vignes. Je pense qu'il n'y a pas que les viticulteurs qui polluent. Bon, on essaye de polluer de moins en moins. C'est que nous, à Saint-Émilion, on est tous engagés dans une certification agro-environnementale. C'est un chemin vertueux dans lequel on les a entraînés et dans lequel ils se prennent au jeu pour aller être des mieux faisants. Ouais, tout Bordeaux est entraîné dans cette démarche-là déjà depuis un bout de temps. Donc voilà, bon après, ça ne me gêne pas, on a de la vérité, oui, on ne veut pas se cacher dans notre petit doigt et on veut connaître, voilà, on appelle un chat, c'est-à-dire qu'un désherbant, on appelle ça un désherbant, voilà.
Voilà, Jean-François Gallo des vins de Saint-Émilion avec Stéphane Iscock.
Et Sébastien, on termine avec un tas de ferraille qui cachait bien son jeu.
Oui, des morceaux de ferraille dispersés façon puzzle, le tout qui dormait depuis un siècle dans les combles de l'église de Notre-Dame de Versailles en région parisienne, jusqu'au jour où un horloger tomba sur ce trésor, l'amas de briques et de broc était en fait une horloge royale du XVIIIe siècle. Bonsoir Béatrice Duguay.
Bonsoir.
Elle est aujourd'hui reconstituée, cette horloge.
Bon de commande signée de Louis XV après le Roi Soleil. Cette horloge a orné le sommet de l'église royale, donc avant de tomber en panne, puis dans l'oubli. Œuvre conçue en 1763. Cette écriture raconte le maire de Versailles, François de Mazières.
Il y a une date, le nom de l'horloger qu'il a exécuté, qui s'appelait Nicolas Colette et qui était natif de Cologne. Et qui a ensuite été horloger à Versailles.
Alors, ces informations sont gravées dans la fonte de la pièce centrale du mécanisme, ainsi qu'une fleur de lys. Elle passionne évidemment l'actuel horloger de Versailles, Bernard Drault. Il est ravi de découvrir que rien n'a été jeté, alors qu'à cette époque, eh bien, la fonte inutile servait aussi à faire des canons. Les employés municipaux ont déballé les pièces devant ses yeux. L'aiguille d'1,50 m notamment, elle est unique. Pas d'aiguille des minutes au XVIIIe siècle. Les boulons, eux, étaient soigneusement conservés dans des poches de tissu. Belle trouvaille vraiment pour le maire.
Ça demande d'être traité par des spécialistes, bien sûr, mais effectivement, ceux-ci sont très intéressés par ce mécanisme un peu compliqué et donc ils sont en train de regarder si l'ensemble des pièces est bien là pour pouvoir faire remarcher cette horloge.
Et si cette horloge marche ou non d'ailleurs, cet objet d'histoire en tout cas, sera vraisemblablement confié ensuite au musée du temps de Besançon.
Voilà, l'horloge retrouvée de Notre-Dame de Versailles et son aiguille haute d'1,50 m de haut. Merci beaucoup Béatrice Duguay.
Voilà, répétez après moi, de briques et de brocs.
De briques et de brocs.
Voilà, et pas broc et schnock, contrairement, enfin bref, les plus vieux me comprennent. Merci beaucoup Sébastien. À tout à l'heure, bien sûr, dans Un jour dans le monde, vous nous emmènerez notamment faire du spinning en Afrique du Sud et on apprendra tous un peu ce que c'est. Ce soir, nous regardons jusqu'à quel point il faut s'inquiéter des pénuries dans le monde et aussi en France. Y aura-t-il des cadeaux à Noël, des cadeaux et aussi des automobiles d'ailleurs. En deuxième heure, nous serons sur une autre forme de pénurie qui est très très loin là de la pandémie, c'est le miel français que vous ne verrez pas en rayon cette année ou si peu. La production a chuté. L'année a été la plus mauvaise de mémoire d'apiculteurs. La faute à la météo et donc aussi au réchauffement climatique qui s'ajoute au débat sur les pesticides. La conséquence, c'est une filière qui accuse le coup très fortement. Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000. Et tiens, justement, puisqu'on parle d'elle.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Et Elodie Calac, bonsoir, attention, changement de temps.
Oui, bonsoir à tous. En effet, on a un temps pluvieux et venté hein, qui va gagner la Bretagne ce soir. Il va balayer le nord-ouest et le nord demain. On le retrouvera à l'après-midi des Charentes et de la Gironde vers le centre, la Bourgogne et la Lorraine. Plus au sud et sur le flanc est, le soleil sera encore bien présent, mais il devra tout de même composer avec la grisaille du matin. Et puis du Languedoc vers la vallée du Rhône et la Côte d'Azur, là ce sera bien encombré toute la journée avec de la pluie sur les Cévennes et un vent de sud qui se renforcera jusqu'à 80 km à l'heure en vallée du Rhône.
Alors en revanche, très très doux le matin surtout, Élodie.
Oui, le matin 11 à 16 degrés jusqu'à 21 à Biarritz. Et puis l'après-midi, ben, contrairement à aujourd'hui, ça va bien baisser. Donc 17 degrés à Brest, 21 à Paris, Strasbourg, Bourges, Bastia. Encore 26 degrés du côté d'Agen. Mais aujourd'hui, on a eu 31 degrés à Osgore, Fabienne.
Eh bien écoutez, dites-moi donc, Élodie Calac, merci. À tout à l'heure, après 19h.